Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Montréal. Aujourd'hui, j'ai envie de dire vivement les femmes qui font lire les garçons. Caroline Héroux connaît un flamboyant succès qui dépasse les frontières du Québec avec sa série de romans jeunesse « Défense d'entrée ». Il faut voir les files de lecteurs qui patientent devant elle dans les salons du livre. Celle qui voulait faire lire les garçons, surtout le sien, vient pourtant du monde du cinéma, un univers dans lequel elle baigne depuis qu'elle est enfant. Entretien avec une boule d'énergie. Bonjour Caroline Héroux, bienvenue à Vivement les femmes.
Bonjour Marthe, merci de m'avoir invitée.
C'est un pur plaisir. Ce qui vient en premier lorsqu'on vous demande comment voulez-vous être présentée, c'est que vous êtes la maman des plus beaux enfants du monde.
Absolument.
Mais Caroline Héroux, vous êtes également une auteure jeunesse à succès et une productrice.
Oui.
Pouvez-vous nous parler dans quel terreau vous avez grandi?
J'ai été élevée dans un cocon familial assez tissé serré. Donc, la famille, c'est très, très, très important pour moi. Mon père était souvent parti sur des productions. Il était producteur aussi, Claude Héroux. Mm-hmm. Et ma mère était à la maison et elle élevait 4 filles, oui. Dont un mouton noir qui était moi. J'ai toujours été la petite rebelle de la famille, mais jamais irrespectueusement, mais je faisais ma place déjà quand j'étais jeune. Et puis, donc, ma mère, c'était comme vraiment là, le général de l'armée. On a toujours été élevés là, très, très, très... pas sévèrement, mais ma mère était sévère. On dirait qu'elle compensait. C'est comme si elle jouait les deux rôles. Mm-hmm. Et puis, elle sentait qu'elle avait besoin de... On avait comme un régime un peu strict, mais toujours dans l'harmonie quand même.
Oui.
Oui.
Et vous êtes dans le rang, vous dites on était quatre filles.
Oui, quatre filles, et je suis la deuxième.
La deuxième, oui. D'accord. Est-ce que vous croyez que le rang dans une famille... impact ou est différent au niveau de l'éducation?
Ah oui, absolument.
De quelle manière?
Il y a plusieurs aspects. Je pense que dans mon cas, si je regarde ma grande sœur, elle a été... on a 3 ans et demi de différence.
D'accord.
La Stéphanie qui vient après moi, on a 16 mois. Donc, c'est sûr que j'ai toujours été un peu plus proche de ma sœur Stéphanie que de ma grande sœur. Et je pense que au deuxième enfant, moi j'en ai juste deux, mm-hmm. Donc je sais pas comment j'aurais été avec un troisième, mais j'ai l'impression que les barrières s'assouplissent un peu au fil des enfants. Disons que le premier enfant, on a toujours un peu peur. On sait pas à quoi s'attendre, on est un peu plus strict, en tout cas dans mon cas, dans le cas de ma mère. Puis après ça, plus ça va, plus c'est lousse, là, disons. Tu sais, rendu au quatrième, je pense que ma mère, elle en avait plein le casque.
Ah, oui.
Tu sais, OK. Tu sais, il y avait plus de oui que de non à la quatrième qu'à la deuxième, disons.
Comme une espèce une légèreté, en fait, qu'on n'a pas au premier enfant, peut-être.
Bien, je pense que c'est l'inconnu.
Qu'il y a rien de grave.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'inconnu qui fait vraiment qu'on est comme ça. Parce que je regarde les grandes familles, c'est souvent ça chez mes amis, là, mm-hmm. de mes amis qui ont plusieurs enfants, plus que deux, disons. C'est un petit peu plus... ils sont plus cool un peu avec les plus jeunes, disons.
Et puis, auriez-vous aimé être dans un autre rang? Certainement pas la première, hein, si je comprends. Peut-être la dernière, plus...
En fait, je respecte les règlements, les lois, je suis très obéissante, disons, pour ça. Même si je suis comme le côté rebelle, je vais toujours pousser les limites, j'ai toujours aimé ça, faire ça. Mais je respecte beaucoup les lois, les règlements. Peut-être un petit peu moins sur la route, là. Enfants me disent, maman, tu vas te faire prendre un jour. Mais j'exagère pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis une personne très obéissante. Donc, mm-hmm. pour moi, au niveau du rang, moi, je pense que ça m'a servi d'être la deuxième parce que je pense que les enfants sandwich sont toujours ceux qui essayent de se démarquer le plus, on dirait.
Pour faire leur place?
Oui. je pense. Mm-hmm. Puis dans, ben en fait, dans mon cas, en plus, c'est sûr que moi, je voulais travailler en production. C'était vraiment mon rêve. Et mon père était producteur, donc je voulais lui prouver que j'étais mm-hmm. capable. Donc, j'ai toujours essayé d'en donner plus dans ce sens-là. Et comme j'étais publiquement la fille de, mais faut en mettre encore plus, mm-hmm. faut mettre encore plus d'efforts dans le travail et surtout une femme.
On ne se le cachera pas.
Aujourd'hui, c'est plus accepté dans le milieu de la production, mais à l'époque, il y a 30 ans, il y avait moins de femmes dans le milieu, au mm-hmm. niveau producteur, je parle.
Ouais. Et au niveau des valeurs, ça ressemblait à quoi, la maison?
Ah, le respect, je dirais valeur numéro un. Le respect, la famille, la loyauté, c'est des valeurs que j'ai encore inculquées aussi dans ma famille, avec mes enfants. Le respect, pour moi, c'est vraiment la base de beaucoup de choses.
Mm-hmm. Effectivement.
L'harmonie.
L'harmonie aussi. Oui. Et vous évoquez lors d'une entrevue que vous jouiez dans la ruelle avec vos cousins à Ville-Saint-Laurent.
Oui.
Et vous dites, j'étais un garçon manqué.
Oui, on était pas mal. Les quatre filles, on a été un
garçon. Ah oui?
Oui, oui, pas mal. On
Et
aimait jouer
qui
au
fait
hockey.
Ça?
Ben, je sais pas, on était. Je sais pas, j'étais dans un collège de filles pourtant, mais j'étais toujours. Tu sais. À part des autres, là. Tu sais, okay. J'avais les topsiders, les filles avaient leurs loafers. Tu sais, j'avais jamais les ongles faits. Okay. Tu sais, c'était comme. Je sais pas, on dirait que je me prenais pas au sérieux, puis je me prends toujours pas au sérieux. Moi,
oui.
Je dis toujours à mes enfants, dans la vie, il faut être sérieux dans ce qu'on fait, mais ne pas se prendre au sérieux. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était pas important, tu sais. Puis oui. j'aimais le sport, j'aimais mm-hmm. bouger, puis je sais pas, j'habitais juste à côté de mes cousins, de chez mes cousins, qui étaient très sportifs. Donc, on dirait que je voulais me prouver que j'étais capable d'être aussi sportif qu'eux. Je sais pas pourquoi.
Est-ce que vous considérez que vous êtes encore un garçon manqué?
Un peu, des
encore,
fois,
oui.
Ouais. Ouais. Dans la vie de tous les jours, oui. Bien, pas un garçon manqué, parce que j'aime prendre soin de moi.
Mm-hmm.
Mais encore une fois, on dirait que c'est comme je me prends pas au sérieux. Mm-hmm. J'aime avoir quelques articles de mode, disons, mais je ne vais jamais être habillée, là, dernière carte de mode. Je trouve que c'est... Mm-hmm. Moi, ça me fait rire, les femmes
ouais.
qui
font... C'est long, en tout cas, la préparation, hein, quand on s'en met beaucoup.
Moi, ben, en tout cas,
c'est ce que je trouve assez long. En quelques minutes, Caroline Héroux, vous avez justement, comme votre père est très producteur, vous expliquez que vous êtes partie aux États-Unis à l'âge de 22 ans mm-hmm. pour vous affranchir, pour vous faire un prénom. Et là,
oui.
vous avez produit plus de 300 concerts sur Sunset Boulevard
oui.
pour la compagnie Billboard Live.
Oui.
En deux minutes, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé?
C'est que j'étais... ma grande sœur et moi, on n'était pas sur le même... On n'avait pas les mêmes éthiques professionnelles, puis c'était elle qui prenait la relève dans la compagnie. Donc, moi, j'avais accepté ça. Mais je voulais pas travailler là. J'étais pas bien, puis j'étais toujours la fille de. Ah oui, on les petits commentaires. Donc, à un moment donné, j'ai dit, je pars, je m'en vais. Puis ça a donné, peut-être 3 mois après mon arrivée, j'ai eu cette opportunité-là que Bill Board Magazine, qui est en musique, partait ce entertainment venue-là. Et là, j'ai dit, OK, parfait. Puis j'ai fait des entrevues, tout ça. Et j'étais tellement convaincante qu'ils m'ont engagée. Mais j'étais une personne qui a toujours, toujours aimé la musique. Je suis vraiment... Je connaissais tout de la musique. Je connais un peu moins aujourd'hui, mais j'adore la musique et tous les genres de musique. Donc, ça m'a beaucoup servi. Et donc, c'était une gang de gens qui commençaient aussi vraiment dans ce milieu-là. Donc, on était tous un peu néophytes.
Mm-hmm.
Et puis, c'était vraiment génial pendant les 2 premières années que j'ai travaillé là. Mais à un moment donné, la musique, il y a beaucoup de drogue et tout. C'était plus ma réalité. Alors, j'ai décidé de revenir à la maison.
C'est important pour vous, Caroline. Vous avez dit, j'en fais ma mission.
Oui.
Mais pourquoi la lecture est aussi importante? Vous parliez un peu plus tôt, vous aimiez la musique, je présume, puis vous faites aussi du cinéma. Donc, toutes les formes d'art vous intéressent, mais pourquoi particulièrement la lecture?
Parce que les gens ne réalisent pas, mais un film ou une série de télé, ça commence sur papier. Donc, pour produire un film ou une série de télé, comme je fais, faut lire un scénario. Donc, la lecture a toujours fait partie de ma réalité. C'est ma vie, tout ça. Et à l'extérieur des scénarios, j'adore la lecture. Je lis moins de romans. Honnêtement, j'adore les biographies. Moi, c'est vraiment ça que j'aime. Ma fille et mon garçon ont exactement 12 mois de différence. Ma fille est plus vieille que mon garçon. Et elle a dévoré des livres. Mmh. Elle mangeait des livres. Je dis, il y avait plein de séries pour les filles et tout. Et mon fils, c'était un petit peu plus difficile. Et à un moment donné, il allait au Mont-Jésus-Marie, à l'extérieur de Mont-Jésus-Marie. Et ils avaient une période de lecture de 15 ou 20 minutes à tous les matins, obligatoire. Puis là, il revenait le soir, puis il disait, ah, je sais pas quoi lire, Là, j'ai dit, bien, viens, on va aller chez Renaud Bré, puis je vais, tu sais, on va regarder les livres, tout ça. Et une heure, puis j'ai dit, je t'achète le livre que tu veux. N'importe quoi, si t'en veux 10, je t'en achète 10. La condition, c'est que tu vas les lire. Mm-hmm. Ce que t'achètes, tu lis. Et après une heure, il me dit, maman, il n'y a rien qui me tente. Puis là, je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et dans la voiture, pour revenir à la maison, je dis, mais qu'est-ce qui t'aurait tenté? Qu'est-ce que tu voudrais lire? Et là, il me dit, bien, j'aimerais ça lire un livre dans lequel, je ne sais pas, je suis dedans avec mes amis, puis tout ça.
Ah ouais.
Et c'est comme ça. Non, il m'a donné l'idée. Là, j'ai dit, ah, bien, écoute, je vais y écrire quelque chose. Fait que je me suis assise dans le lit le soir et je dis à mon mari, je lui écris une histoire parce qu'en tout cas, il est arrivé quelque chose à l'école. Puis je dis, ah, ça ferait une bonne histoire, ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à peu près une trentaine de pages que j'ai fait imprimer. Les défenses d'entrée, juste pour expliquer un peu, c'est que c'est des romans un peu hybrides. Donc, je dis que c'est un roman, c'est entre un roman classique, traditionnel et une BD parce qu'il y a du graphisme, il y a de la couleur.
Oui, c'est magnifique.
Et ça, en l'écrivant, je faisais les différentes fontes et je le fais encore. C'est très important pour moi parce que ça met l'emphase sur le sentiment du moment, la frustration, la colère, la joie, le bonheur, la tristesse et tout. Et la couleur préférée de mon fils à l'époque, c'est encore sa couleur préférée, c'est le orange. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, je vais mettre la couleur orange. Et il y avait eu un petit argument avec sa sœur. Là, on se ramène à... Oui, il y avait 10 ans, là.
Oui, bien sûr.
Et là, il avait dessiné une tête de mort, comme probablement plein d'enfants dans le monde ont fait dans leur vie. Et il avait écrit « Défense d'entrée », puis il avait collé ça sur sa porte et il avait écrit « Interdit aux filles » parce qu'il voulait pas que sa sœur entre dans sa chambre. Moi, j'ai décidé d'être un petit peu plus politically correct. Je me suis dit « Je vais écrire « Réservé aux garçons ». C'est un petit peu plus politically correct, comme je disais. Et donc, ce soir-là, j'ai fait ça. J'ai écrit les 32 pages et j'ai fait comme une page couverture avec une tête de mort que j'avais downloadée de l'Internet. Puis
d'où
écrit
les couvertures.
Oui, c'est ça. C'est vraiment venu. Oui, exactement. Et le lendemain matin, je lui ai dit, tiens, je t'ai écrit une petite histoire. Lis ça ce matin dans la période de lecture. Et il est revenu le soir super heureux, enthousiasmé. Il dit, maman, c'est tellement bon l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après? Et là, moi, j'avais pas prévu le coup. J'ai dit, il se passe rien. Et c'est là qu'il m'a dit, non, mais t'as oublié de parler de ça, t'as pas dit ça, t'as pas fait ça. Puis j'ai fait, oh my God, OK. Et de là est née la collaboration avec mon fils.
Oui. Et ça, c'est pour les enfants de 9 à 12 ans, c'est
de ça? De 9 à 12 ans, oui. Les garçons, majoritairement.
Oui.
Ouais.
Et après, on verra, vous en avez fait aussi une série pour les filles.
Oui.
Et le tome 14, pardon. Oui. C'est votre dernier. Et vous dites que c'est votre préféré parce qu'il est le plus émouvant. Alors, il est question de la mort.
Oui.
Moi, j'ai lu ça. Sérieusement, j'ai pleuré.
Ah oui?
Oh, oh, wow. Oui. J'ai pleuré parce que c'est tellement ça.
Oui.
Hein? On est en plein là-dedans. Et vous dites, il ne devrait pas y avoir de sujet tabou avec les jeunes. La mort fait aussi... faut faire comprendre aux jeunes que ça existe. Quel événement? Parce que vous avez dit également en entrevue que toutes les histoires, c'est des histoires vraies. Dans le fond, vous n'avez rien inventé. C'est des choses qui se sont produites que vous avez vécues soit dans la famille ou qui est arrivée dans vos proches. Quel est l'événement qui vous a inspiré, justement, qu'on parle de la mort?
Bien, en fait, c'est un sujet que j'avais jamais abordé. Et on parle de tabou et de faire attention et tout, mais quand on regarde, là, les jeunes aujourd'hui sont tous sur les réseaux sociaux. Oui. Il n'y en a pas de tabou. Mm-hmm. Il n'y en a pas. Alors, pourquoi nous, en tant qu'auteurs, on devrait s'en mettre? Et je pense que j'étais rendue à un point où je me disais, mes lecteurs sont prêts à être capables de gérer ou de digérer cette histoire-là. Et je voulais pas tomber dans le cliché d'un grand-parent, un chien. Mm-hmm. Tu sais, j'avais le goût de vraiment faire quelque chose de plus différent, en fait. Et ça vient vraiment de nulle part, je trouve, dans l'histoire. On le sent venir un peu, mais oui. Tu sais, c'est vraiment, je sais pas, je trouvais ça le fun de voir que Charles-Olivier, mon personnage, développe mm-hmm. cette relation-là avec son professeur, puis... C'était pas un ami. Tu sais, c'est vraiment... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai choisi lui, mais mm-hmm. ça m'est venu.
C'est pas quelque chose qui s'est passé dans votre vie, d'accord.
Non, mais quand j'étais dans au camp de filles, quand j'étais jeune, je m'étais blessée à un moment donné à un genou, puis pendant 3 jours, je pouvais pas faire d'activité. Et je m'étais comme liée d'amitié avec l'infirmière du camp, mm-hmm. avec qui on avait continué à échanger des lettres. Mais c'était vraiment juste amical. C'est juste venu comme ça. Je me suis dit, mm-hmm. OK, je vais prendre cette expérience-là. Comment je me sentais quand un adulte m'écrivait, quand un adulte autre que mes parents, évidemment, me donnait de l'attention et tout. Et je suis partie de là, je pense.
Est-ce qu'on croit que vous poussez davantage les émotions d'un tome à l'autre?
Ah oui, c'est loin. Sûr. Oui, oui.
Et
pour moi, parce que dans la vie, il y a une évolution dans nos sentiments, d'accord. dans nos émotions, dans notre maturité de gérer ça aussi. Et je pense que, je sais qu'il y a des jeunes qui ont 9 ans quand ils lisent le premier tome et ils en ont 9,5 quand ils lisent le 14e tome. Mais je pense qu'ils évoluent avec l'évolution de mon personnage parce qu'ils ont le même âge. Oui, Lolo. Oui.
Notre beau Lolo.
Lolo.
Qui est très attachant. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un 15e tome?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut savoir à peu près quand? Et qu'est-ce que vous allez aborder? Avez-vous déjà décidé
du thème? Non, j'ai pas décidé le thème encore. Moi, j'écris d'une façon très particulière. C'est très bizarre. En fait, c'est qu'un roman va me prendre 3 semaines à écrire, mais je l'ai mijoté dans ma tête pendant plusieurs mois. Donc, tant que j'ai pas toute l'histoire dans ma tête, je suis pas capable de le coucher sur papier.
D'accord.
Je vais jamais m'asseoir devant l'ordi en ne sachant pas. Non, jamais. Mm-hmm. Jamais.
Et vous avez fait aussi, comme je disais un peu plus tôt, défense d'entrée fille.
Oui.
Et là, vous êtes rendu au 5e tome.
Le 5e tome, le 6e va sortir au printemps.
Au printemps, exactement. Oui. Et puis, est-ce que c'est plus facile, votre fille collabore ou a collaboré?
Elle a collaboré beaucoup les 4 premiers tomes, oui.
Okay.
Malheureusement, elle habite plus avec nous, donc c'est un petit peu...
Elle
est à l'extérieur de la ville. C'est un peu plus compliqué des fois, surtout que là, elle est dans un décalage horaire. Elle habite à Monaco, donc c'est 6 heures. Donc des fois, tu sais, c'est pas facile.
Oui.
Mais la collaboration m'a beaucoup aidée au début pour comprendre les points de vue.
Mm-hmm.
Et pour moi, c'était très important de ne pas être une adulte qui essaie d'écrire pour les jeunes. Et c'est pour ça que le point de vue de mes enfants a toujours été très, très, très important.
Est-ce que c'était plus facile de travailler avec votre fils ou avec votre fille?
C'était facile avec mon garçon parce que il posait moins de questions. Il était plus innocent. Ma fille, elle avait 16 ans.
Okay.
Charles-Olivier en avait 10. Et Catriona était beaucoup plus consciente.
OK, ouais, qu'elle aidait ou qu'elle contribuait.
Oui.
Et là, il y a 4 tomes en BD, de défense d'entrée. Alors, comment vos histoires sont-elles transposées d'un roman à une BD? Et d'où viennent les créateurs de BD?
Au début, en fait, je voulais pas faire de BD parce que le but de faire des romans pour les jeunes garçons qui aiment pas la lecture, c'était justement pour les éloigner de la BD. Mais à un moment donné, notre éditeur en France nous avait dit, écoutez, on aimerait ça faire une BD, la BD c'est populaire et tout. Donc j'ai accepté, mais je pense encore que les romans sont meilleurs. Parce que c'est comme juste des bribes d'histoire dans la BD, il n'y a pas comme tout l'arc dramatique, on dirait, ça passe trop vite.
Et croyez-vous que les lecteurs des romans achètent les BD?
Est-ce
que c'est les mêmes lecteurs?
Il y en a que oui. Mais c'est sûr que les jeunes qui sont pas encore au roman vont préférer les BD.
Mm-hmm. Et vous avez fait un seul roman adulte qui a été publié en 2012 et qui s'appelle, j'adore le titre, Un coin de paradis.
Oui.
Est-ce que vous avez d'autres projets pour les adultes?
En fait, la vérité, c'est que j'ai un deuxième roman que j'avais commencé pas longtemps après. J'étais rendue, je vous dirais, là, à la moitié du roman. Et il est sur les tablettes depuis 9 ans parce que là, les défenses d'entrée m'ont pris tellement de temps depuis 9 ans que, c'est ça. Je vais m'y remettre un jour parce que j'aime beaucoup écrire pour les adultes.
Et
c'est vraiment une écriture différente.
Ah oui, absolument.
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu du thème?
Oui, ça se passe à l'école du cordon bleu à Paris.
Ah là!
Oui.
OK.
Ouais, j'aime beaucoup la nourriture.
Oui,
oui, oui.
J'en connais d'autres aussi, j'aime beaucoup la nourriture. Et est-ce que vous avez une idée de la parution?
Non.
Non, pas non. du tout.
Non.
Vous passez un peu les défenses d'entrée avant.
Oui, parce que les jeunes, ils restent loyaux. Oui, c'est ça. Puis là, comme là, on vient de passer le Salon du livre et malheureusement, j'ai pas pu sortir le tome 6 pour des raisons personnelles, mais il va sortir au printemps. Puis je voyais l'engouement des jeunes filles. Là, ils ont très hâte au printemps, donc faut que je finisse ça.
Caroline Héroux, expliquez-nous ce que fait une productrice et une scénariste dans la chaîne du cinéma.
C'est deux étapes complètement différentes. Si on parle de la productrice, normalement, ben pas normalement, mais les producteurs sont les instigateurs des projets. Donc, je vais chercher, disons, si j'ai une idée, admettons, je vais engager un scénariste pour dire, écoute, j'aimerais ça que tu m'écrives une histoire sur XYZ. Sinon, les auteurs ou les scénaristes viennent nous déposer des projets. On les lit, on dit oui ou non, on est intéressé. Si on est intéressé, à ce moment-là, on achète les droits et on monte une équipe pour faire un dépôt. Dans le cas de la production québécoise, il y a des subventions gouvernementales, donc il faut faire les dépôts à Téléfilm Canada et à la SODEC dans le cas d'un long métrage. Mais si c'est de la télévision, alors à ce moment-là, on essaie de trouver le meilleur partenaire diffuseur pour la série qu'on a. Mm-hmm. Et une fois que ça s'est fait, ben on monte une équipe quand le financement est commencé. Alors, on va trouver souvent le réalisateur au début du projet, même quand le projet est à l'état embryonnaire, parce que des fois, c'est bien d'avoir un input de réalisateur. Et puis sinon, dans mon cas, à moi, parce que je suis une productrice très contenue, parce qu'évidemment, comme j'écris, c'est un peu une déformation professionnelle. Donc, je m'implique beaucoup avec les auteurs avec qui je travaille pour le contenu, mm-hmm. au niveau du contenu, de faire de la script édition, disons.
Et la scénarisation.
Et la scénarisation, bon, en fait, là, j'ai écrit les romans. On a déposé à Radio-Canada, on a fait 65 épisodes. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que je l'ai scénarisé moi-même avec un script éditeur avec qui je travaille sur mes romans aussi, Pierre mm-hmm. Chalowski. Et là, je suis en développement à Radio-Canada sur une série adulte.
D'accord.
Donc, l'écriture est un petit peu différente. Je suis comme plus chez nous, puis je dépose à Radio-Canada, ils me donnent leurs notes. Mm-hmm. Il y a du back and forth, comme oui. on dit, là. Mm-hmm. Mais tu sais, comme je joue le rôle de productrice dans ce dossier-là.
OK.
Donc, ils me parlent directement
deux.
À moi.
Vous portez le les deux chapeaux.
Oui. Mm-hmm. Oui.
Et vous avez aussi réalisé les films À vos marques parties
oui.
et puis Sur le rythme.
Oui.
Et avec du recul, comment voyez-vous ces projets-là?
Mais moi, je crois beaucoup en la jeunesse. Donc, c'est sûr que les films de jeunes, j'adore ça. J'ai toujours aimé les jeunes. J'adore. C'est un groupe d'âge avec qui je suis très à l'aise. Mm-hmm. Moi, je suis très fière de ces films-là. Ils ont été faits à un moment donné où les téléfilms de ce monde et SODEC ne croyaient pas au projet. Et on l'a financé au privé avec Super Écran à l'époque et qui a cru au projet. Et puis, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, il y avait vraiment un manque de ce genre de films-là au Québec.
Et... est-ce que vous préférez scénariser ou produire?
Ah, scénariser.
Carrément?
À 100%, oui.
Et pourquoi?
Honnêtement, il y a 10 ans, je vous aurais dit produire. Parce que la production, c'est drôle, j'en parlais tout à l'heure, c'est très physique, c'est très demandant. Puis moi, je suis une personne entière, je suis une personne passionnée. Je fais pas les choses à moitié. Donc, pour moi, si je demande à mon équipe de se lever à 5 heures du matin, 4 heures du matin, 3 heures du matin pour être sur le plateau de tournage, en tant que productrice, je vais être là, moi aussi. Mm-hmm. Je me suis toujours impliquée sur le plateau, toujours en respectant le fait que mon rôle était très différent de celui du réalisateur. Mais c'est important pour moi que les gens de l'équipe sachent que j'étais là. Mm-hmm. Et donc, ça, ça, ça fatigue au fil des ans. C'est très drainant, oui, pour même sur le corps, physiquement et tout. Donc là, maintenant, je laisse la place aux autres pour la production. Mmh. Je m'éloigne un petit peu plus. Ouais.
Et pour, si on revient à Défense d'entrée, oui, est-ce qu'il va y avoir une suite de ce que vous avez fait? Est-ce que ça va sortir...
Vous dire à la télé?
Oui. Est-ce que aussi, on va, ça va sortir, ça va aller au-delà des frontières? Ces séries-là qui ont déjà été faites.
Là, vous parlez des livres ou de la...
Non,
les séries
on
télé?
Est toujours... Oui.
Ben, c'est sûr qu'on aimerait des ventes internationales, mais je ne sais pas si dans le jeunesse comme ça, c'est très vendeur. Honnêtement, on n'a pas essayé de le vendre à l'international. Non. Non, c'est très local, très national.
À quel projet travaillez-vous actuellement? Et est-ce que vous travaillez parfois avec votre conjoint producteur, Christian Larouche?
On a travaillé beaucoup dans le passé. Là, je vais développer un film avec lui, un film jeunesse encore. Mm-hmm. Mais là, il m'engage dans ce cas-ci.
Ah bon?
Oui. Il voulait il voulait la scénariste et non la coproductrice.
D'accord.
Donc, je suis en train de développer un long métrage avec lui. Mm-hmm. On travaille très bien ensemble, Christian et moi. On est très complémentaires et puis on s'entend bien aussi. Des fois, c'est sûr qu'il y a un petit peu de friction comme dans n'importe quoi. Là, on est, oui, deux gens très passionnés, donc on tient des fois à notre point. Oui. Mais sinon, ça a toujours bien été. Il respecte mon travail, je respecte son travail. On est, comme je vous dis, on est complémentaires, donc c'est parfait.
Et vous êtes capable, c'est ça, de faire la différence entre la vie de couple et la vie professionnelle.
On se le rappelle.
Ramenez-vous ça à la maison.
On le ramène à la maison, mais oui, on se rappelle souvent, on se le dit. Là, regarde, on va en parler demain.
Ah si oui, OK.
Oui, parce que des fois, ça...
Oui, c'est intense.
Ça peut, oui, oui.
C'est comme à temps plein.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du...
Et je veux juste dire, mes, oui, enfants aussi nous ont souvent ramenés à l'ordre. Là, on est dans un souper de famille, on ne va pas parler d'affaires.
Oh, wow, oui. OK.
Oui.
Donc, ça arrivait oui, parfois quand même.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du sujet de ce film-là?
Ah oui, bien, en fait, c'est un défense d'entrée.
Ah, okay.
Ça fait plusieurs années que Christian m'achalait avec ça. Encore une fois, il manque des films de jeunes et familles au cinéma québécois, je parle. Mm-hmm. Et puis, on le voit, là, ça fonctionne partout dans le monde, les films familles. Donc, il, mm-hmm, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas au Québec. Et donc, je suis là-dessus. Là, je vais plancher là-dessus. J'ai déjà toute l'idée. Tout ça, ça me travaille depuis plusieurs années. Là, donc,
Est-ce qu'on a une idée de la date de sortie?
Ah non, ça, faut passer par les institutions. Ça peut prendre quelques années. Donc, 1, 2, 3 ans peut-être.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Je suis en compagnie de l'auteure et productrice Caroline Héroux. Vous êtes une grande travaillante, une femme énergique, capable d'abattre beaucoup de travail. À quelle source d'énergie êtes-vous branchée?
C'est une très bonne question. Les gens me disent souvent ça, que j'ai beaucoup d'énergie, mais je ne sais pas. Je trouve que tant qu'à s'impliquer dans quelque chose, il faut le faire à 100 %. Mm-hmm. 110, 120 %, mais au moins 100 %. Et c'est sûr qu'il y a des fois où je suis fatiguée, mais... Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Je dors bien. J'ai un mode de vie assez simple. Je suis pas beaucoup au restaurant. Je suis pas beaucoup dans les soirées. Je suis pas très... je suis un peu antisociable.
Ah oui?
Ben oui, un peu. J'aime passer du temps avec mes amis, mes, mm-hmm, vrais amis, qui sont tous des amis de longue date. Mais je suis pas très soirée mondaine, disons.
Mm-hmm. Vous les fuyez un peu, peut-être?
Je les fuis pas, mais je fais pas exprès non plus pour... mm-hmm. Non.
Vous gardez votre énergie?
Oui, exactement. Non, puis je sais que des fois, il y a des mauvaises influences. Quand on se met à... C'est peut-être mon expérience en Californie, à Los Angeles, oui, qui m'a appris ça, que des fois, quand tu essaies de vivre à 100 000 à l'heure le soir, bon, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a... Je sais pas, on dirait que c'est pas un monde qui m'attire. On a trop à faire le jour, trop, oui, de beaux moments à passer en famille, avec les amis, tout ça. Aller dans la nature, profiter de la vie, plus que, je sais pas.
Oui.
Moi, je suis une lève-tôt en plus.
Ah oui?
Oui,
Ouais, ouais. À quelle heure vous voulez?
Ah, je me lève. Ben, avec Christian, là, c'est plus difficile. Mais je suis à 5h30, 6h, là, c'est mon.
Ah oui?
Oui.
Carrément.
Je me réveille. Après ça, je vais. Bon, là, maintenant, on a un chien. On a le frileux.
Oui, le frileux, oui.
Je le promène toujours vers 7h. Mais mm-hmm. souvent, je vais avoir fait ma course le matin avant. Mm-hmm. Dépendamment de la saison aussi, parce oui. qu'avec la température des fois ou la noirceur, tout ça, mm-hmm. je suis un peu peureuse de courir le matin quand il fait noir.
Oui, je vous comprends.
Peur de surtout de me faire frapper, disons, plus oui. que de me faire attaquer.
OK.
Pardon. Et, mais donc, l'horaire change au fil des mois, mais normalement, mm-hmm. c'est ça.
Est-ce que vous êtes plus solitaire ou...
Je suis très solitaire, oui.
Très solitaire. Ouais. Ça va mieux pour créer, hein, peut-être?
Oui, oui, mais j'adore être en gang aussi. C'est vraiment... Mm-hmm. Chaque période a ses moments, on dirait. J'ai besoin de concentration, j'ai besoin d'être seule pour me concentrer pour écrire. Mais quand je suis en famille ou avec mes amis, mm-hmm. je suis toute là aussi.
Et la mise en forme, c'est important pour vous?
Ben oui, moi, j'ai perdu 60 livres dans les...
Pour vrai?
Oui, j'ai eu un accident de cheval il y a plusieurs années puis qui m'a arrêté un petit peu dans mon activité physique. Et en tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai recommencé à marcher avec frileux. J'ai commencé à marcher, j'ai été voir un chiro. Ma commotion cérébrale n'avait pas été réglée comme il faut. Puis en tout cas, finalement, je me suis guérie il y a 4 ans déjà de ça. Et avec le chien, je commençais à marcher 1 km, 2 oui. km, 3 km. Puis là, je ramenais le chien à la maison. Puis là... Il me semble que j'aurais fait un 2 km de plus. Mm-hmm. Donc là, je repartais sans le chien. Puis là, à un moment donné, il me semble que je courais. Fait que là, je courais 5 km par jour, en fait.
5 km?
Oui, j'ai fait un demi-marathon.
Oh,
oui. Bien là, du déménagement, à cause on a eu un dégât d'eau à la maison, j'ai un peu arrêté oui. parce que la fatigue s'est un petit peu abattue sur moi.
Oui, un déménagement, ça
trois fatigue. Déménagements trois. En 5 mois,
ah, okay,
c'est beaucoup aussi. Mm-hmm. Et donc, j'ai un petit peu moins couru, mais ça me manque.
Oui.
Donc là, j'ai recommencé. Tu sais, je suis descendue comme de... Je courais 7 matins ou 6 matins par semaine. Et là, je suis rendue peut-être à 3 matins par semaine, mais je vais recommencer là, tranquillement.
Mm-hmm. Donc, ouais. Vous voyez, vous avez constaté absolument un peu d'inactivité par obligation. Hein? On s'entraîne.
Ah oui, c'est tellement bon pour la santé mentale.
Oui,
c'est
exactement.
Pas juste physique.
C'est
les
ça,
gens,
hein?
Ah oui, oui, c'est vraiment
ça
important.
Ça roule mieux hein, dans
oui.
notre tête. On
oui.
est moins
Et même, je vais aller plus
moins
loin.
Stressé.
L'entraînement extérieur est encore meilleur parce que, tu sais, l'hiver, il y a des journées où, disons qu'il y a eu de la pluie, tu sais, verglaçante des fois, ou les trottoirs. Je suis tombée une fois, puis c'est comme je ne vais plus retourner
non.
quand il y a moyennement un risque, là, mm-hmm. où je me blesse. Et j'ai un tapis roulant à la maison.
Oui.
Mais c'est pas le même entraînement.
Non.
C'est comme, même si c'est la même chose,
oui, mais oui.
la part de ça, c'est pas la même chose que d'avoir
l'air pur. Ben, l'air pur, oui, en ville.
Oui, mais l'air frais, là.
C'est
oui.
ça.
Ouais.
L'air pur de la ville.
Oui, exactement.
Et est-ce que vous avez connu des échecs dans votre carrière, Caroline?
Sûrement.
Parce qu'on vous regarde aller, tout vous sourit, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. En tout cas, de l'extérieur, c'est ce qu'on voit.
Je suis une personne très peureuse. Et donc, souvent, je ne vais jamais... Autant les gens me disent « t'es fonceuse ».
Oui.
Autant je ne vais jamais foncer si je ne suis pas certaine de mon coup.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, échec. Les Avomark Party ont été complètement démolis par la critique, mais au niveau du box-office, au niveau des jeunes, tout ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un échec? Moi, je ne pense pas, parce qu'en bout de ligne, le film a connu un gros succès.
Oui.
Mais au niveau des critiques, je ne suis pas la personne la plus aimée parce qu'on fait des films commerciaux. Puis au Québec, ce n'est pas bien vu dans l'intelligentsia. Là.
Oui. Et pourquoi c'est comme ça?
Je ne sais pas. C'est du snobisme, je crois. Oui. Je pense que les films popcorn, disons, ne sont pas bien vus dans les... Je ne sais pas, honnêtement. Mm. Pourtant, c'est ceux qui plaisent au public.
Oui, voilà.
Mais je ne sais pas. Donc, pour répondre à la question... des échecs, c'est sûr que j'en ai eu, mais dans mes gros projets, je me suis rarement lancée dans un projet si j'étais pas à 100% sûre que ça allait réussir.
C'est très intéressant parce qu'on ne le voit pas, hein, tout ça de l'extérieur.
Ouais.
Et dites-moi, vous avez dit j'ai évolué dans un monde d'hommes.
Oui.
J'étais la fille d'eux.
Oui.
Longtemps, ça m'a mis mal à l'aise.
Oui.
Qu'est-ce que vous recommandez aux femmes qui veulent créer leur vie? Qu'est-ce qu'il faut pour avancer et se réaliser?
Avancez et réalisez-vous sans vous soucier des autres. C'est vraiment... Il y a certaines fois où j'aurais pas dû écouter... Tu sais, des fois, les... Ah oui, on sait bien, toi. Tu sais, les commentaires négatifs. Ça m'a miné, ça, dans le passé. Puis à un moment donné, encore une fois, quand je suis partie à Los Angeles, je suis revenue quand j'étais certaine de mon coup.
Puis depuis ce temps-là, les critiques ne vous affectent plus?
Non. Je les lis même pas, honnêtement.
Pour vrai?
Oui.
Vous faites bien.
Oui, parce que ça ne change rien en bout de ligne, honnêtement.
Mm-hmm. Et vous avez dit aussi l'égalité forcée, ça me fait sortir de mes gonds.
Oui.
Une femme est capable de faire sa place dans la société sans qu'on lui fasse de faveur.
Oui.
Est-ce que c'est lié à votre expérience personnelle que vous dites ça?
Ah, je pense que c'est juste dans ma personnalité.
Oui.
Je pense que... Oui, peut-être. J'imagine à quelque part. Mais oui, moi, quand je me fais dire il faut que tu signes un papier à Téléfilm Canada pour dire que tu vas engager autant d'hommes que de femmes, que de ci, de diversité, les ethnies, les diverses techniques et tout ça, ça me gonfle, comme on dit.
Oui, parce que vous êtes vous considérez capable de juger vous-même.
Oui, puis en plus, c'est qu'au Québec, moi, je regarde mon fils, ils sont un groupe de 13 garçons, mais sur les 13, il y en a 9 asiatiques.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'est naturel aujourd'hui. C'est même plus, oh mon Dieu, il est chinois, il est japonais, il est coréen, il est
Donc, haïtien. Ça ne devrait plus exister, ce truc.
Mais non, mais c'est sûr qu'il faut, on respecte les...
Oui, oui.
Moi, nous autres, il y a beaucoup de trucs, tu sais, le meilleur ami de mon fils, c'est et chinois, puis il m'a rapporté un set de thé de la Chine, puis je suis toute excitée à chaque fois que je bois mon thé parce que je me dis, oh wow, c'est vraiment cool. Donc, on respecte les religions, on respecte les habitudes de chaque personne, mais je dis, ça reste que c'est des Québécois, puis moi, je trouve que c'est très enrichissant d'apprendre sur les différents pays et tout. Je pense qu'on n'est pas obligé de se faire imposer. Puis aujourd'hui, en tout cas, c'est comme de je trouve qu'on ostracise encore plus les gens en essayant de les inclure. C'est ça qui me frustre.
Vous avez 54 ans, Caroline Héroux, ça vous fait rien qu'on dise votre âge.
Non, pas du tout.
Et il y a plus de 20 ans, vous avez épousé, on l'a dit un peu plus tôt, le producteur Christian Larouche, qui est le père de vos deux enfants.
Oui.
Il est de 16 ans, votre aîné.
Oui.
Pouvez-vous nous parler de cette rencontre-là? Est-ce que ça s'est fait lors d'un tournage?
Non, ça s'est fait lors d'une convention des producteurs, en fait.
Ici à Montréal?
Oui. Non, on était au lac, je pense le lac Taureau ou quelque chose comme ça. On était partis pour quelques jours. Et puis, ça serait drôle parce que s'il était ici, je sais qu'est-ce qu'il dirait. Il dirait, je l'ai vu puis je suis tombée en amour avec elle. Alors,
beau.
Il s'est arrangé pour s'asseoir à côté de moi durant la soirée et on a juste commencé à parler. Et moi, je revenais de Los Angeles à ce moment-là. J'étais pas vraiment dans un état pour rencontrer quelqu'un. J'étais pas dans ce mood-là, disons. Et puis finalement, commence à parler. Et donc, il était insulté que je connaissais pas les films québécois, dont Les Boys. Mais moi, c'était pas ma réalité à ce moment-là.
Mais non.
Et là, il m'a dit, ah, je vais t'envoyer une boîte de films, là. Je vais t'initier aux films québécois et tout. Et donc, on a développé une amitié, puis après ça, on est tombé en amour. Ben, lui était en amour depuis le début, qu'il m'a dit. Puis moi, c'est venu.
C'est venu après.
Oui.
Vous êtes plus difficile à gagner.
Ah, peut-être, je ne sais pas.
Et de quelle manière vous vivez cette différence d'âge-là, qui n'est pas immense, mais quand même? Est-ce qu'en vieillissant, c'est plus complexe?
En fait, c'est sûr que, honnêtement, je n'ai jamais vraiment senti la différence d'âge avec Christian jusqu'au jour où il y a eu un cancer assez sévère, là, cancer du côlon, stade 4. Ça lui a donné un petit mauvais coup, là. Ça a été un petit peu plus une période difficile. Mais maintenant, il est guéri à 100%. Donc, oui. C'est sûr que ça l'a miné un peu, ça lui a grugé de l'énergie.
Oui.
Parce qu'honnêtement, les gens qui connaissent Christian diraient, oui, il y a plus d'énergie que Caro, lui, il est vraiment incroyable.
Ah oui?
Oui, oui, mon mari, ça n'a pas de bon sens, l'énergie, comme vraiment incroyable. Donc, je pense que là, il est rendu à mon niveau. Ça a été bon, son cancer, pour qu'il vienne à mon niveau, je pense. Oui.
Et donc, vous ne voyez pas nécessairement, sinon avant cet événement-là?
Non, pas vraiment.
Les enfants sont aussi énergiques que vous?
Oui.
Oui, ouais, forcément.
Hein? Oui. Ma fille plus que mon garçon. Je pense que les garçons, en partant, sont un petit peu moins... ils ont moins d'énergie ou je ne sais pas, ils la placent différemment. Ma fille s'entraîne beaucoup aussi. Mon garçon, il est plus... il s'entraîne les pouces sur les jeux vidéo.
Ah oui, d'accord.
Mais il étudie... il est en biomède à l'Université de Montréal. Donc, il lit beaucoup déjà des trucs scientifiques et tout. Il est très là-dedans, lui.
OK. Ouais. Et votre fille, elle est dans quel domaine?
Ah, ma fille, elle est en train de faire sa maîtrise en produits de luxe et événements de luxe à Monaco.
D'accord.
Elle est là-dedans. Donc,
et qu'est-ce que c'est quoi l'objectif?
Son but, c'est de... Elle veut partir sa compagnie d'événements de luxe. Donc, faire des... organiser, des, disons, des défilés de mode pour Prada ou Gucci, ces affaires-là. Et organiser des mariages, mettons, le mariage de Charles Leclerc ou disons, des trucs comme ça. Là, c'est ça qu'elle veut faire.
Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Je pense que le fait d'avoir évolué dans le domaine du cinéma, ça crée aussi
Oui, mais très créative aussi, ma fille. Oui, elle a beaucoup ça, oui. Ouais.
J'en doute pas, c'est un peu inné. Hein?
Oui. Ouais.
Et vous avez marché dans les sillons de votre père, Claude Héroux, et vous êtes en couple avec un professionnel du cinéma. Est-ce que vous croyez que vos enfants, à un moment donné, bien qu'ils soient dans des domaines différents présentement, vont bifurquer?
Jamais.
Ah bon?
Non, ils veulent rien savoir.
Rien?
Non, rien, ni l'un ni l'autre.
Est-ce que vous savez pourquoi?
Non, je pense que c'est juste que... Ben, le milieu du cinéma est rendu de plus en plus difficile au Québec.
À quel niveau?
Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de producteurs, beaucoup de gens qui s'improvisent producteurs et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font pas ce métier-là pour les bonnes raisons.
Oui.
Ils voient plus le glamour, l'argent, je sais pas. Mes enfants, autant ils aiment beaucoup le cinéma, ils aiment aller au cinéma, ils aiment des fois, ils venaient sur les plateaux de tournage et tout. Ils sont pas... Mon fils, c'est vraiment... Il veut être médecin, il veut être chirurgien, c'est ça qu'il veut. Ma fille, elle est trop globe-trotter, elle veut...
Voyager.
Ah oui, elle voyage beaucoup. Elle étudie à New York pour faire son bac. Ensuite, là, elle est à Monaco. Elle a fait un semestre à TSI où ils ont visité 14 pays. C'est ça, nous, Christian et moi, on est des adeptes des voyages. Donc, on a toujours fait voyager les enfants. T'sais, on a fait beaucoup de voyages quand les enfants étaient jeunes et elle a vraiment pris goût à ça.
Oui.
Donc,
est-ce qu'il y a un voyage qui vous a marqué? De tous ces voyages-là?
De famille?
Oui.
Parce qu'un voyage seul, c'est les Galapagos.
Oui, ça c'est.
Mais un voyage de famille, il y en a eu plusieurs pour des raisons différentes, mais on a eu beaucoup de plaisir en Écosse.
En Écosse?
Mais pas autant pour les paysages que pour ce qui nous arrivait. C'était un voyage... mes enfants étaient plus vieux, ils avaient déjà 17-18 ans. C'était vraiment... C'est une autre forme de voyager que, mettons, quand on est allé aux îles Canaries, il y en avait 8 ans, 9 ans, c'est pas la même chose.
Non,
c'est vraiment différent.
Oui, ça
devient...
On vit
les expériences différemment.
Oui, oui. Et ça devient aussi plus vieillissant, je présume, des relations égal à égal entre adultes.
Oui, 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 tout à fait.
Oui.
Les conversations sont différentes, mm-hmm. les expériences sont différentes. Il y a des trucs qu'on peut pas faire avec des enfants de 8, 9 ans en voyage versus, tu sais, quand ils sont plus vieux.
Oui. Et à cette belle famille-là, c'est ajouté, on en a parlé un peu plus tôt, frileux.
Oui.
Alors, il est dans vos séries Défense d'entrée et Les Pareils. C'est un beau berger anglais. Et vous l'avez adopté. Est-ce que c'était la famille qui voulait un chien ou c'était la production télé qui en voulait un?
Alors, l'histoire est que je déteste les chiens. J'ai peur des chiens et j'avais juré que jamais dans ma vie, je n'aurais un chien.
Comme quoi?
OK. Premièrement. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que quand mon personnage de Lolo, dans les livres, au début, tout au début, la première fois où il est triste, je sentais qu'il manquait quelque chose dans le roman et j'ai ajouté un chien. Et là, j'ai fait des recherches sur quel chien est docile, obéissant, est bon pour les enfants et tout ça. Et les bergers anglais ne cessaient de revenir sur... Là, je me suis dit, OK, ça va être un berger anglais. Et donc, Frileux a existé dans mes romans avant d'exister dans la vie. Et donc, à chaque fois que mon personnage de Lolo est triste ou il est même quand il est content, il va partager sa joie ou sa tristesse avec Frileux, qui est un gros toutou, dans le fond, puis c'est de la laine. Alors, il est encore chaud. Tu sais, il est chaud, puis il est cuddly, comme on dit.
Oui.
Et donc, moi, j'ai toujours tenu mes promesses. Quand je fais une promesse à quelqu'un, j'ai jamais... toujours tenu mes promesses. Et j'avais dit à mes enfants, je vous promets un jour que si on fait la série télé... parce que mes enfants me demandaient un chien, puis tout ça, puis je voulais pas. Je dis non, moi, j'ai peur des chiens. Puis oui, mais t'en as mis un dans les romans. Mais j'en veux pas quand même. C'était... Et ils m'ont fait promettre à un moment donné, maman, si on fait la série télé ou un film, est-ce que on peut... Et le premier soir, quand je suis arrivée à la maison et j'ai dit, les enfants, Radio-Canada veut faire la série, une demi-heure après, ma fille avait contacté Joanne, l'éleveur des bergers anglais. Elle m'a dit, maman, elle nous attend dimanche. J'ai comme, pardon? Elle m'a dit, tu nous as promis. Et dans la tête de mes enfants, ils savaient que parce que je leur avais promis, on allait avoir un chien. C'était même pas la question, on se posait pas.
Ouais.
Et j'ai tenu ma promesse et je suis en amour avec mon chien.
Ben oui, il va marcher avec vous tous les matins.
Tous les matins. C'est moi, c'est mon chien, c'est...
Il a changé votre vie?
Ah oui, complètement.
Oui?
Ah oui, complètement. Complètement. C'est... Je sais que c'est pas évident, parfois, d'avoir des chiens ou un animal de compagnie et tout.
Mais ça change,
parce que c'est demandant. Hein?
Matin, soir, faut que
matin, soir, midi, dans mon cas, parce que bon, mais je trouve que pour ma santé physique, pour ma santé mentale, mais même émotivement, le chien était là quand Christian a eu son cancer. Et la zoothérapie, je sais pas, ça a été tellement bénéfique pour toute la famille.
Ah oui?
Ah oui, ça a été...
Qu'est-ce que ça lui a apporté, vous
croyez? Je sais pas, c'était juste apaisant.
Oui.
T'sais, on dirait qu'on revenait toujours à regarder le chien. Lui, il sait pas, mais il comprend, il ressent nos émotions.
Voilà.
Il ressent les émotions, les chiens. C'est vraiment... On me dit que les chats aussi, mais bon, moi,
oui,
je parle
c'est
du
vrai.
Chien.
Moi, j'ai un chat, effectivement.
Mais donc, en tout cas, je sais pas, ça nous a beaucoup aidé toute la famille à passer à travers ça.
Au-delà de votre carrière, de votre famille, de toutes vos passions, vous avez quand même un engagement qui vous tient à cœur.
Oui.
Qui est Allergie Québec.
Oui.
Vous voulez nous en parler de votre implication et pourquoi vous y êtes?
Pourquoi? C'est parce que quand mon fils Charles-Olivier avait un an et demi, il a fait une réaction anaphylactique. On n'avait jamais... Moi, je ne connaissais pas les allergies alimentaires du tout. En fait, c'est faux. Ma sœur Stéphanie avait fait une réaction allergique genre 2 mois plus tôt aux pommes. Et je l'avais amenée à l'hôpital. Son œil, en tout cas, était sorti de ça. Puis elle n'avait jamais été allergique avant. Puis là, elle se retrouve à faire ça. Mais elle, c'était vraiment plus cutanée, disons, épidermique. Okay. Et là, on était chez Costco, pour ne pas le nommer. Et tu sais, le samedi, des fois, ils offrent des petits trucs, ils font goûter des trucs. Donc là, mon Christian a donné à Charles-Olivier un petit morceau de muffin aux dattes et noix.
OK, rien
et
de...
Et là, notre fils a commencé à tousser. Bon, OK, il n'y avait rien de... Là, à un moment donné, il est venu, il y avait des petits boutons dans le dos, puis il se grattait, puis là, il pleurait. Puis là, à un moment donné, là, j'ai fait « Oh my God! » Et là, son œil a enflé. Et c'est là que j'ai allumé. J'ai dit « OK, il est en train de faire une réaction allergique, anaphylactique. » Et on est arrivé juste à temps à l'hôpital. Ils me l'ont pris des bras, ils l'ont réanimé. Ah non, ça a été... Puis tu sais, il y avait un an et demi, là, il n'était pas vieux. Et ça a été assez traumatisant pour moi. Et en fait,
tellement que j'ai comme arrêté de vivre quasiment pendant plusieurs années, dans le sens où je voulais plus sortir, je voulais plus aller au restaurant, je voulais plus, j'avais peur de tout, j'avais peur que mon fils meure et tout. Et à un moment donné, c'est très drôle parce que Guy Jodoin, le comédien, a des allergies alimentaires aussi. Okay. Et quand on a fait à vos marques party, oui. Ah, je voulais juste reculer un petit peu. On allait en Europe beaucoup avec les enfants. Mm-hmm. On a arrêté de voyager. Pendant au moins, à vos marques party, c'était en 2007. Il est né en 2003. Il avait comme 4 ans. Donc, pendant 3 ans, 2 ans et demi, là, j'ai tout arrêté. Et on est à Québec pour la promotion du film au Château Frontenac. On est en train de souper ou de luncher, je ne me souviens pas. On est toute l'équipe. Et là, Guy est assis en face de moi. On n'a pas parlé d'allergie alimentaire, je ne sais pas de ça. Et là, je commande mon repas. Guy commande son repas et le serveur arrive avec un panier de pain. Et Guy pose la question, « Ah, est-ce qu'il y a des noix dans votre pain? » Non, monsieur. Parfait, il s'en prend un. Puis là, moi, je dis, mais pourquoi tu viens de poser cette question-là?
Oui.
Il dit, bien, parce que je suis allergique aux noix, tout ça. Puis je dis, mais là, attends, tu manges du pain, il t'a juste posé la question. Et il m'a appris comment poser les questions.
Ah,
comment, oui.
Oui.
Okay. Et ensuite, j'ai un ami qui m'a approché, qui, lui, ses petits-enfants étaient allergiques, et François Seigneur, et sa fille est sur le. Elle travaille pour Allergie Québec.
Ah, oui.
Et ils m'ont. Donc, il y a 5 ans. Ils m'ont sollicité tout ça. Ils m'ont dit, écoute, on aimerait vraiment ça, que tu fasses partie de la communauté, tout ça. Et finalement, j'ai commencé comme membre du CA.
Oui.
Et puis après ça, ben depuis 2 ans, je suis la présidente du CA.
Ah, vous êtes la présidente.
Oui. C'est vraiment, on ne réalise pas le stress sur les parents et à quel point ça change la vie aussi, même pour ma fille.
Oui.
Dans le fond, elle a été, disons, entre guillemets, pénalisée par la maladie de son frère.
Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses qui ne rentraient pas dans la maison.
Exactement.
Ouais.
Et bon, on se faisait des petites sorties entre filles, puis je le faisais.
Oui.
Mais là, plusieurs années plus tard, à l'âge de 12 ans, ma fille a fait les mêmes allergies.
Les mêmes?
Donc,
aux
aujourd'hui,
mêmes choses?
Oui. Aujourd'hui, ils sont tous les deux allergiques à la même chose. Donc, c'est encore, j'ai deux raisons de m'impliquer dans Allergie Québec plus qu'une.
Et depuis que vous êtes dans Allergie Québec, est-ce qu'on sait... Pourquoi qu'à un moment donné, du jour au lendemain, il y a une allergie qui se...
C'est des cycles. Premièrement, les allergies, c'est des cycles. C'est le système immunitaire à un moment donné, je ne sais pas. Je me suis longtemps demandé si j'avais... Quand on est enceinte, on a des rages des fois.
Oui.
Moi, j'avais des rages de chocolatine aux amandes.
OK.
Je mangeais des chocolatines aux amandes. Puis je me suis dit, à mon fils, pas à ma fille.
Oui.
Je me suis dit, écoute, est-ce que c'est à cause de moi qu'aujourd'hui, il est allergique? Tu sais, on le sait pas, mais c'est sûr que Christian est asthmatique et l'asthme aussi est un problème de système immunitaire, c'est relié. Mes deux enfants sont asthmatiques aussi. Donc, mais en tout cas, c'est juste une question, on peut vivre avec les allergies. C'est juste une façon de poser des questions, d'apprendre à comment gérer ça.
Oui.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils offrent comme service Allergie Québec?
Bien, premièrement, il y a des lignes de soutien. On parraine des professeurs. On fait des présentations dans les restaurants, dans les écoles aussi.
Pour sensibiliser?
Pour sensibiliser les gens, parce que des fois, c'est vraiment la mort. Hein?
Oui, oui.
C'est ça. Il y en a des fois que c'est des caprices... moi, mon caprice, c'est les bananes et les champignons. Donc, des fois, êtes-vous allergique? Ben non, mais oui, je le suis psychologiquement.
Parce que vous n'aimez pas ça.
Parce que j'aime pas ça. Mais il y a des gens où la moindre petite poudre d'amande dans un gâteau, puis c'est fini.
Oui.
Donc, ça va vite, hein, en plus. Donc, c'est vraiment important de soutenir les familles parce que c'est vivable, c'est gérable. Il faut juste leur faire comprendre et leur faire connaître les moyens, comment poser les questions, comment gérer tout ça. Et je pense qu'en ce moment, il y a des bans dans les écoles. Pas le droit d'apporter de noix parce que telle personne est allergique et tout. Je pense pas que c'est la bonne approche. Je pense qu'au contraire, il faut faire comprendre aux jeunes que, tu sais, moi, mes enfants, ils ont toujours vécu dans un environnement, où, bon, pas à la maison, mais maintenant, j'en ai des noix à la maison parce qu'ils sont assez vieux pour comprendre qu'est-ce que c'est tout. Mais à l'époque, tu sais, des fois, c'est les restrictions, c'est pas bon non plus. Pour les allergies, oui, mais je parle pour les autres enfants qui sont autour. Quand l'enfant n'est pas allergique à la protéine dans l'air, tu sais, c'est vraiment important de juste faire comprendre. Tu sais, c'est comme on parlait de la censure plus tôt.
Oui.
Tu sais, les livres qui sont bannis ou censurés, moi, je compte ça parce que je me dis comment on peut leur faire comprendre, comment peuvent-ils apprendre si on n'a pas le droit d'en parler?
Oui, effectivement.
Donc, c'est
un excellent point.
C'est un peu la même chose mm-hmm. avec les allergies alimentaires.
Oui. Et en terminant, Caroline Héroux, parce que on achève.
déjà.
Oui, déjà, ça va tellement vite. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin?
Oh, la vie. J'aime tellement la vie. Je suis une personne qui meurt dans la vie. Mon chien me réveille, là. J'ai pas le choix.
Oui, mais... c'est
non, mais j'aime vraiment la vie. Je suis vraiment une personne qui est vivante et je meurs dans la vie.
Vous n'avez pas de spleen de...
Non.
Non?
Non, pas du tout.
Jamais, jamais.
C'est rare que je ne veux pas me lever un matin. Mm-hmm. Oui, vraiment.
Bon, il y a évidemment frileux qui vous fait sortir.
Oui, mais je sortais avant. Ouais. Je pense que c'est bon pour la tête, c'est bon pour sortir dehors. Mm-hmm. Mais me lever, j'aime juste la vie. J'ai hâte de voir ce que la vie va m'apporter durant la journée.
Un immense...
Comme une entrevue avec vous.
Oui, oh, ça, c'est extraordinaire. Merci infiniment, Caroline Héroux, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde. Lynn Roy à la recherche. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.